Jean-François Sprissigo est né en 1979. Il a été remarqué par Christian Cojol, le directeur de l'agence Vue, en 2003. Sa biographie se termine par ces mots. Il aime beaucoup les animaux et s'efforce de comprendre le monde. Sa parole est atypique, comme sont certains discours qui refusent l'intellectualisme parce qu'ils sont ancrés dans l'expérience sensible et par le fait même intelligente du monde. Jean-François Sprissigo a titré son exposition « En famille ». Il ne s'agit pas d'images que l'on feuilleterait dans un album de famille classique. Il s'agirait plutôt d'une projection de la famille en dehors de la cellule familiale. Un enfant sous un arbre en automne, le profil d'une jeune femme qui se promène sur une plage du Nord, de vieilles mains qui se croisent sur un tablier à fleurs et une bête qui vous regarde. Des images en noir et blanc qui apparaissent dans l'épaisseur de la vie fragile.
Ce sont des rencontres et aussi une tentative d'approcher ce mot qui, je pense, sonne comme évidence en tant que mot, mais en tant qu'expérience à vivre, ce mot famille, je pense, n'est pas si souvent accompli pour chacun d'entre nous. Et cette exposition-ci, c'est une tentative, on ne peut faire que ça, d'essayer moi de me dire quelle est cette famille. La famille est-elle celle que nous choisissons, celle d'où nous venons? C'est ce que nous faisons de ce terme, évidemment, qui en donne la densité.
D'où cette part d'ombre également qu'il y a dans vos images, ces gris aussi?
Pour moi, le premier rapport à la famille, sans aucun cynisme, parce que je m'en défends, c'est évidemment aussi l'idée du paradis perdu, de l'enfance. Quelque chose qui s'éloigne, et ce sont des choses qui me touchent, et j'ai l'impression que je n'ai pas actuellement la maturité, ou que sais-je, ou la sagesse pour l'exprimer avec les mots, mais avec les images, je parviens à raconter ces sensations qui sont miennes.
On a parfois l'impression que le paradis perdu, ce sont des moments d'inconscience aussi, où on n'avait pas conscience d'être au monde et où on vivait finalement un moment peut-être agréable ou pas, mais en tout cas, cette espèce de rupture par rapport à une conscience adulte, est-ce que vous l'avez quand vous photographiez ?
Je suis entièrement d'accord avec ça, ce que vous dites, cette rupture est nécessaire. Et vous avez vu, j'ai demandé à Marcel Moreau, qui j'ai le privilège d'avoir son amitié aujourd'hui, d'écrire le texte me concernant pour cette exposition. Et Marcel a une définition très juste, il parle des instincts éclairés. Donc vous voyez, on n'est pas dans une rationalisation, quelque chose de raisonné, parce que je crois que le premier mouvement du monde adulte est de raisonner, souvent pour se camoufler ses peurs, moi premier bien sûr. Et je pense que repartir de ces instincts éclairés qui n'ont rien de primaire, mais qui ont plus un caractère primal, ça permet de se recentrer.
Alors vos images en noir et blanc bouleversent par leur charge humaniste. Et puis à côté de ces images, ou mêlées, il y a ces images en couleur de Didier Cook. Alors ce sont deux univers qui à première vue sont éloignés l'un de l'autre. Lui photographie des femmes qu'il rencontre par le net, des scènes de vie également. À première vue, il y a moins d'ombre que dans vos images. Et cependant, l'accrochage permet de, non pas de désapparenter, mais une image écoute l'autre, semble-t-il. Et le spectateur peut les associer parce qu'elle raconte aussi des histoires.
Tout à fait. Avec Didier, en fait, c'est un monsieur donc, que j'ai connu quand j'avais 16 ans, qui a été mon professeur de photographie. Et à l'époque, il faut savoir que ce que je faisais n'était pas apprécié. Et ça a été lui le premier à dire qu'il y avait peut-être quelque chose. Et c'est d'autant plus louable de sa part qu'il faut savoir qu'on n'a rien à voir. Vous l'avez vu, esthétiquement, formellement, au niveau de ce qu'on souhaite véhiculer par l'image. On a des préoccupations très différentes. Mais étrangement, cette expérience de binôme nous a permis de nous retrouver sur des choses humaines assez sensibles. Mais sinon, il est évident qu'il y a une rupture franche. Et je me dois ici de saluer l'accrochage de Didier, qui est parvenu à mettre en confrontation, dialogue. Je pense que ça appartient au spectateur. Mais de faire exister les deux. Moi, je vous avoue, quand j'ai eu cette exposition, je me suis dit maintenant, j'ai la chance d'avoir un peu de lumière sur moi et je me dis, il faut la faire partager et il faut savoir à qui dire merci. Et Didier fait partie de ces premières personnes à qui je dois dire merci.
En visitant l'exposition, je me disais finalement, ils n'ont rien à se dire, mais ils ont tout à se taire parce qu'il y a une espèce de silence très respectueux l'un vis-à-vis de l'autre.
C'est très, très juste ce que vous dites, je vous en remercie.
Vous parliez de l'accrochage, on peut également saluer l'accrochage qui en partie est réalisé par Jacques Ilègue ici à la Maison de la Culture de Tournai, parce que vous occupez un espace qui est parfois ingrat, c'est pas évident effectivement d'exposer à la Maison de la Culture, et cet espace ne tient pas de l'alcôve, c'est un lieu un peu à l'écart malgré tout, mais il est ouvert, alors peut-être qu'il n'y a de famille qu'adoptive, et on sent effectivement cette espèce d'ouverture également dans cet espace.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a voulu. D'habitude, il ferme le panneau qui clôt la salle d'exposition et qui donne vers l'ouverture de la fenêtre extérieure. Et nous, on voulait précisément assumer cette ouverture-là, assumer cette traversée. Comme vous dites, dans ces deux univers qui se taisent très bien entre eux, mais qui pourtant, par là même, existent, cette ouverture-là était nécessaire parce qu'effectivement, c'est un lieu qui n'est pas aisé pour l'accrochage, incontestablement.
On peut parler de votre vocabulaire, puisque Marcel Moreau, dans son texte, dit Sprissigo, il a du vocabulaire, et venant d'un homme de l'écriture, c'est très très important.
Oui, mais c'est un homme essentiel dans ma vie aujourd'hui. C'est quelqu'un qui réénergise la langue, qui réénergise le sens des mots.
Qui est dans le primal aussi.
Ah oui, complètement. Et dans la générosité, encore une fois.
Dans bien, la genèse.
Oui, tout à fait. Bien distinguer. Par exemple, Marcel me disait, il y a un mot qui est très connu, trivial, hein, l'enthousiasme. Et Marcel me disait, la définition d'enthousiasme dans le dictionnaire Furtière du XVIIe, c'était fureur poétique ou prophétique. Et Marcel est proche de cette langue-là, proche de cette langue primale. Et je pense que c'est à cette langue-là que je veux appartenir aussi.
C'est ça qui vous rapproche ?
Ce qui me rapproche de Marcel, en amont, c'est le hasard qui m'a fait le rencontrer. Vous voyez, il est toujours là chez moi. Et puis, je pense que nous nous sommes trouvés. Mes papas d'éducation, si je puis dire, sensibles, sont tous morts, souvent avant ma naissance. Brel occupe une place absolument nécessaire et fondamentale dans ma vie. Bien, je n'ai aucun photographe qui m'influence de manière directe, mais par contre, je suis clairement un fils de Brel, je suis un fils d'Alfred Schnittke, le compositeur. Et Marcel, ben voilà, vous imaginez pour moi le privilège de pouvoir rencontrer un homme dont on peut admirer l'œuvre.
Alors vous avez employé le mot « fils » alors que cette famille n'est pas biologique.
Ah oui.
C'est aussi symptomatique.
Tout à fait. Il y a « fils » par filiation. Il y a une espèce de chemin commun que nous traversons et qui nous éclaire de manière différente, bien sûr. Mais je suis traversé de beaucoup de choses et la musique est nécessaire. Et si vous lisez Marcel, vous verrez que la musique a une place tout à fait essentielle dans son œuvre aussi.
Oui, il y a une musique et un corps des mots. Alors chez Brel, par exemple, qu'est-ce qui vous touche ?
Chez Brel, ce qui me touche, c'est évidemment son côté Don Quichotte. Moi, ce qui me touche chez Brel, c'est tant sa musique que la figure Brel, la figure brelienne, c'est-à-dire la figure que tout à chacun connaît. Je ne l'ai évidemment pas connu, il est mort avant que je naisse. Mais il y a une démesure, il y a un caractère excessif qui n'est pas liberticide. Vous voyez, c'est quelqu'un qui donne au mot liberté une valeur qui ne se confond pas avec du liberticide. Je crois que c'était un homme libre et j'admire ce qu'il a. Par exemple, il a dit une phrase que j'ai mise à l'issue du catalogue de mon exposition Anima, qui a eu lieu à l'Institut de France, c'est « un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres ». Je trouve que cette définition est très ouverte parce qu'elle ne résout rien, mais elle interroge, elle renvoie vers des choses. Et puis Brel a dit cette autre phrase qui a construit ma vie, c'est « nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence ». C'est dans Jojo.
Revenons peut-être à vos images, Jean-François Sprissigo. La photo, en fait, arrête le temps, on capte un instant, mais il y a un léger bouger dans vos images et par le fait même, il y a un moment qui semble s'inscrire dans le cliché. Cette manière d'inscrire le moment, c'est aussi une manière de convier la mémoire du photographe et la mémoire du spectateur. Il y a une espèce de complicité parce qu'on projette également notre mémoire sur nos souvenirs, en tout cas sur vos photos. Vous recherchez inconsciemment cette complicité.
J'ignore si je la recherche, mais j'ai toujours pensé que ce qui nous appartient, ce n'est pas l'expérience que l'on vit, mais le souvenir que nous en gardons. Et je pense que le rapport à la vie, le premier rapport, c'est le mouvement. Et donc intuitivement, je pense que ce mouvement se doit, dans l'histoire que j'ai à raconter, ce n'est pas une valeur d'absolu, doit avoir sa place au sein de mon travail, car c'est ainsi que je peux témoigner de la chose qui, je pense, me relie le mieux à la Terre. Vous savez, je sais où je suis quand enfin j'entends ma propre respiration. C'est très rare de s'entendre respirer. Et quand j'entends ma respiration, voilà, je sais qu'il y a cette légère vibration. Et je pense, vous savez, je ne réfléchis pas à ce que j'obtiens. Ça s'inscrit dans la photo.
Vous avez aussi cette expérience quand il fait très très froid et que votre haleine a une espèce de consistance.
Tout à fait. Oui, ce sont des choses. Bah, vous savez, je ne me sens pas belge sur un caractère patriotique ou autre, mais je suis bel et bien du Nord. Je suis d'ici, je suis de cette culture. Je crois que ça, c'est évident. J'ai un rapport au froid qui me permet de me recentrer. Je ne saurais que trop encourager tout à chacun d'aller à la mer du Nord maintenant. Les lumières sont magnifiques. Il n'y a personne. Il y a quelque chose de l'ordre du confrontationnel. On peut penser, quand on est face au large, à la mer du Nord, le soir, déserté, j'ai la prétention de comprendre un peu plus le bateau ivre de Rimbaud. Enfin, vous voyez, je ressens qu'il y a quelque chose là.
Vous voyez des choses que l'homme a cru voir.
Oh, j'ai pas la prétention d'être une pitié ou un quelconque devin, mais c'est très rare, je pense, dans une existence, de pouvoir se dire si souvent que ça, je suis ici et maintenant. Et ce ici et maintenant, la première manifestation, c'est la connexion que nous avons enfin avec cette respiration, voilà, qui nous relie. D'un coup, je ne suis plus dans un automatisme, je suis dans une incarnation.
En tout cas, on peut avoir cette impression d'être ici et maintenant face à vos images. Et vous parliez du bouger de la vie. Finalement, vos images sont arrêtées. Elles sont en quelque sorte mortes par la fixation sur le papier. Et ces images paraissent aussi comme des espèces de palimpsestes parce que comme il y a une histoire qui s'inscrit dans les images, on a parfois l'impression aussi qu'elles charrient des images qui appartiennent à l'histoire de la photographie. Par exemple, je vois un médaillon sur une tombe, je vois le portrait d'une religieuse, je vois l'apparition d'une fillette dans une lumière de sous-bois, je pense à Stephen Sack, je pense à Hubert Grote-Claes, je pense à Hugues de Wurstemberger, toutes références confondues, mais est-ce que ce sont aussi des palimpsestes? Est-ce que vous écrivez également sur l'histoire de la photo?
Non. Non, parce que j'espère me prévaloir toujours d'être un quelconque théoricien. Je ne me sens pas être théoricien car je soupçonne toujours ce terme d'avoir des velléités de convaincre derrière. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous n'êtes pas nourri par cette histoire, par ces images?
Très sincèrement, je vous assure, n'y voyez pas de mépris, non. Je connais des photographes que vous avez dit, donc ça me permettra de mettre en évidence mon inculture. Je n'en connais que l'œuvre de Wurstemberger, d'avoir vu son exposition à Charleroi récemment, au musée de la photo. Je vous dis, c'est la musique qui compte pour moi. La photographie, le seul photographe qui m'émeut, parce que pour moi, encore une fois, je pense que discourir, c'est trop de fois, je vois dans des œuvres, quel qu'en soit le support, une volonté que l'artiste démontre qu'il est intelligent et que le spectateur se rassure en se croyant intelligent d'avoir compris un être supposé intelligent. Vous voyez, ne fût-ce que dans l'énonciation de ce que je dis, toute la complication inutile de cette démonstration. Moi, je pense que, voilà, il y a un rapport à l'émotion, mais pas un sentimentalisme inutile. C'est ce qu'encore, on revient à Brel, c'est ce qu'il disait, ce sont les larmes, mais sans sanglots. Vous voyez, c'est assumer ça, ces émotions-là. Et le seul, donc, photographe, je vous disais, dont je me sens, voilà, ému, c'est Giacomelli.
Donc, on pense à ces prêtres, ces espèces de silhouettes noires sur la neige.
Ça dramatique. Il y a un sens. Alors, vous voyez, étant donné que je suis d'une rare inculture en photo, je serais peut-être maladroit pour le qualifier. Il y a chez lui, j'ai envie de dire, un excès nécessaire. Vous voyez ce paradoxe-là? Il est dans des valeurs de tirage complètement excessives. Il y a de l'audace, il y a de la poésie, il n'y a pas de retenue. Enfin, il y a de la pudeur, bien sûr, mais on sent que ce n'est pas quelqu'un qui cherche à mettre en avant une démonstration technique ou autre. Trop souvent, je vois qu'on se pâme sous le seul exploit technique d'une œuvre. Et j'ai envie de vous dire que c'est quand même le minimum qu'on attend d'un artiste, c'est d'être techniquement parfait. Enfin, je pense qu'on ne félicite pas un maçon de faire un mur droit, donc je trouve qu'on n'a pas à féliciter un photographe de faire une bonne photo.
Jean-François Sprissigaud expose en famille à la Maison de la Culture de Tournai jusqu'au 24 mars. Un album, Silencio, est paru également chez Yellow Now.